Souvenir FM.
Il est midi.
L'invité du 12-13 de Souvenir FM.
Souvenir FM.
Bonjour à toutes et à tous, merci David pour l'animation, on te retrouve pour le drive. Oui, Romuald va bientôt revenir dès qu'il aura récupéré sa voix, vous inquiétez pas, vous allez le retrouver. C'est l'heure de l'invité du 12-13, votre émission qui met en avant vos acteurs locaux, ceux qui font vivre le territoire. Alors aujourd'hui, nous recevons Christian Broucaré, président de la FNAUT. On parlera, on détaillerait bien sûr les acronymes, c'est une maladie française, Nouvelle-Aquitaine. Et Henri de Fougue, un usager landais qui connaît bien le chemin de fer. Bonjour à tous les deux, comment allez-vous ?
Bonjour, ben écoutez, tout va bien.
Bien, bien.
Très bien. Alors on va passer une heure ensemble, on va découvrir nos invités, puis on va parler de la problématique des transports sur notre territoire. C'est important, d'autant plus que notre territoire, nous, il est très étendu, donc on a des contraintes techniques qui ne sont pas forcément les mêmes que dans les grandes métropoles. On va d'abord écouter le Flash Info national et international, et on trouve ensuite nos invités pour la première partie de cette émission. Et nous voilà de retour avec nos invités. Donc la FNAUT, c'est la Fédération Nationale des Associations d'Usagers des Transports. Voilà, comme ça au moins on sait de quoi on parle, on voit le sujet, ça va être ça. Alors en préambule, on commence toujours l'émission, messieurs, par demander un petit peu à nos invités une petite trajectoire personnelle qui nous donne une idée de la trajectoire qu'ils ont parcourue avant d'arriver aujourd'hui à ce micro. Qu'est-ce qui se lance en premier ?
Ben moi je peux me lancer, donc
oui.
Ma trajectoire personnelle a été de parcourir beaucoup la France dans des fonctions diverses où je me suis beaucoup occupé de routes et d'eau, mais aussi de transport. Donc je suis maintenant largement à la retraite depuis pas mal d'années, mais je suis toujours très intéressé par les problèmes de transport public. Et donc c'est pour ça que j'ai toujours participé à ce genre de réunion.
D'accord, donc vous êtes sensibilisé à ce genre de choses pour des raisons historiques, et puis voilà, ça vous intéresse.
Tout à fait.
Puis c'est une problématique qui concerne voilà, tous les gens, hein, c'est important. C'est important entre guillemets, le liant hein, dans une société, dans un pays. Ben c'est un petit peu comme les artères qui transportent le sang. Et là, ça transporte les gens, et c'est important aussi. Christian, à votre tour.
Alors moi, je suis né dans les Pyrénées-Atlantiques, à Monin. J'ai fait mes études au lycée Guynemer, qui était une filière pour entrer à la SNCF, à l'EDF, chez France Télécom à l'époque. Après, ben, comme tous les gens de ma génération, j'ai fait l'armée, j'étais au service des essences. Et après, j'ai basculé à l'énergie, j'étais chez EDF-GDF, donc j'ai commencé au nord de Pau. Puis après, je suis parti à Bordeaux, hein, parce que c'est les mutations dans les grandes entreprises, et donc j'ai fait de l'ELEC et du gaz. Mais je me suis toujours occupé des transports, parce que ma première action associative, ça avait été d'acheter un mètre carré à l'entrée de la vallée d'Aspe pour la réouverture de la ligne Oloron-Canfranc. Donc je salue les gens qui sont membres du CRELOC, le comité pour la réouverture de la ligne Oloron-Canfranc. Et donc après, le CRELOC était intégré à la FNOT, Fédération Nationale des Associations d'Usagers des Transports. Et très synthétiquement, on avait une association qui s'appelait l'OTRA, l'Association d'Usagers des Transports de la région Aquitaine. Au début des années 2000, la problématique des transports avec la reprise par la région des TER est devenue très importante, et l'arrivée du tram à Bordeaux et l'explosion de toute façon des transports en commun un peu partout en France. Donc j'ai été président de la FNOT Aquitaine, et puis après, quand on a fusionné les trois régions, président de la FNOT Nouvelle-Aquitaine. Donc la FNOT au niveau national, il y a à peu près 160 associations, et en Nouvelle-Aquitaine on en a à peu près le dixième.
D'accord. Alors, vous parliez de Canfranc, quand on a été palois, on connaît, et puis même quand on l'a visité, c'était quand même un beau bâtiment, hein, assez particulier quand même.
Oui, surtout maintenant, en plus, l'ancienne gare de Canfranc a été transformée en hôtel international de très très grande qualité, ça doit être du niveau 4 étoiles, mais derrière, il y a toujours une gare qui a été conservée. Et maintenant, on n'attend plus que les derniers 40 km à ouvrir entre Bedouce et Canfranc pour réouvrir cette cette liaison internationale. Et donc, bon, une fois que ce sera ouvert, je pense que je pourrai prendre ma retraite associative.
Ah oui, voilà. Alors, c'est vrai que historiquement, c'est, au départ, c'était une ligne qui était utilisée par les Allemands, les nazis. Il faut faire transiter le tungstène, hein, voilà, entre l'Espagne et la France. Hein, donc, c'était un endroit stratégique, hein, pour eux. Ça, c'était une ressource importante. Évidemment, le blindage, le tungstène, c'est assez costaud. Voilà. Alors, donc, parlons donc de cette fédération. Donc, on a bien compris qu'il y a une instance nationale et ensuite il y a des instances plutôt régionales. Alors ça, vous parliez de 160 associations à l'échelle nationale.
Oui, alors 160 et puis et
des brouettes.
En nouvelle, oui à peu près. Et parce que vous savez, des associations, il y en a qui naissent, il y en a qui meurent. Bon, c'est comme ça, c'est tout à fait normal, puisque il y a des fois les gens arrivent à leur but, et puis de toute façon on le voit bien aussi depuis le Covid, les gens sont devenus beaucoup plus individualistes et donc ils ont beaucoup plus de mal à se fédérer sur un sujet. Alors, il y a des collectifs qui émergent, mais qui meurent aussi vite. Donc, très, très simplement, il y a des associations qui sont là pour réouvrir des lignes, hein, ce qui est le cas du Créloc, mais on en a aussi du côté de Bressuire, en Nouvelle-Aquitaine. Il y en a qui sont pour surveiller des lignes. On en a vers Langon, on en a vers Saint-Mariens, on en a vers Arcachon, on en a vers le Médoc. Et puis, bien sûr, on surveille beaucoup les transports urbains de Bordeaux. Et donc, comme la FNOT est une association de consommateurs reconnus d'utilité publique, on siège dans tout un paquet de choses officielles. C'est-à-dire, dès qu'il y a quelque chose qui se fait, ben, le préfet nous demande notre avis, et les collectivités, bon, je vous le fais très court.
Oui.
Et on siège, ce qui est, je ferai un focus un peu sur ici, ben, on siège entre autres au COPIL TER Nord et au COPIL TER Sud. Alors l'émergence que voient vos usagers, c'est les fameux comités de ligne. Hein, je pense que la région mettra le calendrier des comités de ligne, parce que la FNOT n'a pas vocation à être hégémonique, et les usagers peuvent, que ce soit à distance ou que ce soit en local, venir donner leurs idées fonctionnement de leur ligne. Nous, on n'a pas vocation à être hégémonique, je le répète. Et puis parce que nous, on les suit avec beaucoup d'intérêt, parce que vous savez, quand on connaît beaucoup un sujet, ben, des fois, il y a des choses qui nous paraissent naturelles et qui n'est pas naturelles pour les usagers, et puis les usagers peuvent avoir des idées que nous, on n'a pas.
Oui, tout à fait. Alors c'est vrai que même moi, à titre personnel, j'ai reçu un mail il n'y a pas longtemps, hein, pour participer à ces comités. Là, j'ai vu qu'il y en a plein dans plein de régions où les gens peuvent proposer des choses sur des lignes qui les concernent. C'est vrai, c'est sorti il y a 2 semaines, un truc comme ça, le mail, je crois. Donc, question qui va se poser tout de suite, on a parlé beaucoup du train. Est-ce que vous êtes concerné que par le train ou par tous les transports en commun?
Non, par tous les transports, parce que de toute façon, il y a une complémentarité entre les modes. Donc, que ce soit les transports à la demande, que ce soit les transports urbains de quelles que soient les villes, hein, que ce soit Pau, que ce soit Niort, que ce soit Bordeaux, bien sûr, parce que Bordeaux, c'est un gros travail pour nous. On siège au comité des partenaires, on siège au CCSPL, puisque CCSPL, Commission Consultative des Services Publics Locaux, c'est-à-dire que chaque fois qu'une collectivité délègue un service à une entreprise, qu'elle peut être publique ou privée, alors, il existe aussi les régies, hein, mais j'en parle pas, le concessionnaire comme le concédant doivent faire un rapport d'activité. Alors, ça peut être pour l'eau, les transports, l'assainissement, la téléphonie, l'électricité, le gaz. Et donc, le concessionnaire et le concédant font un compte rendu d'activité. Et les associations constituées viennent nous donner leur avis sur comment a été bien ou mal traité le service.
Oui, bien sûr. Bon, après, c'est vrai que vu de l'extérieur, quand on est un simple usager, entre guillemets, on ne sait pas trop comment ça se passe, qui est notre interlocuteur, qu'est-ce qu'il y a derrière, tous les rouages de la machine. Ça peut sembler complexe quand on n'est pas dans le coup. C'est vrai que, bon, effectivement, il y a des commissions, comme dans plein d'institutions françaises, avec quand même des gens qui sont des syndicats ou des fédérations qui sont là pour vérifier, hein, ça existe aussi pour la retraite, pour tout genre de choses, des gens qui sont là pour veiller au grain, hein, pour voir que les choses sont bien respectées, que la défense des usagers est respectée. Ça c'est important. Vous êtes en quelque part une défense de consommateurs, quelque part, dans l'esprit un petit peu, si je peux utiliser ce mot.
Oui, tout à fait. Et puis ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'au niveau de la FNOT nationale, on a des juristes qui gratuitement peuvent conseiller les usagers ou les clients, hein, sur par exemple les litiges qu'ils peuvent avoir avec les les transporteurs aériens, ce qui est, voilà, souvent on est consulté sur sur ce genre de choses. Alors moi, je n'ai pas la compétence, donc je refile ça aux juristes nationaux. Oui. Et après, bon, comme nous, on a des bons contacts, que ce soit avec TER, que ce soit avec les opérateurs locaux, on arrive toujours à trouver des solutions, parce que c'est pas toujours facile de faire la part des choses pour les usagers, hein, comme vous l'avez dit, qu'entre autres, la SNCF qui est coupée en trois entités, voilà, je dois élaguer le bord de la voie, à qui je m'adresse? Adressez pas à Voyage, parce qu'eux, ils vont pas vous, c'est pas leur truc. Ne vous adressez pas à Gare à Connexion, il faut s'adresser à Réseau. Et puis après, moi, ce que je regrette à titre personnel, même si ça me sert, c'est que tout se passe à Bordeaux, et ça, c'est le problème sur cette grande région. Parce qu'on nous avait dit, vous verrez, avec la fusion des régions, on aura des réunions à Limoges, on aura des réunions à Poitiers, on aura des réunions à Bordeaux. Bon, mais maintenant, les réunions se passent en physique à Bordeaux. Il y a, bien sûr, la vidéo qui fait beaucoup de choses. Oui. Mais vous savez, par expérience, que ce soit professionnelle ou associative, il se passe souvent beaucoup plus de choses avant et après la réunion, parce que c'est le contact humain, et qui est le plus important, que pendant la réunion, où c'est des choses qui sont un peu officielles et un peu guindées. Et ça, c'est ce qu'on peut reprocher, si vous voulez, à cette grande région, c'est qu'elle est trop grande. Même le président de la région, même Alain Rousset,
elle a agrandi, en fait,
regretté. Parce que c'est grand. Hein. Je peux vous assurer que de Port-de-Pile, qui est juste à la limite de Tours, jusqu'à Urdos, qui est dans le sud des Pyrénées-Atlantiques, ça fait beaucoup. Et vous verrez d'ailleurs sur le planning des comités de ligne. Alors, la région essaye de ne pas faire les comités de ligne toujours au même endroit, mais ce qu'ils font aussi, vous pouvez les suivre en vidéo. Et donc, c'est vraiment une très grande région, ce qui nous pose un gros souci, parce que nous, ça nous fait des déplacements. Même si on a des associations un peu partout, c'est quand même une grosse charge.
Très bien. C'est déjà le moment de faire une première pause après cette petite introduction. On sait où on met les pieds maintenant. On écoute un petit peu de musique, on retrouve ensuite nos invités. Et nous voilà de retour. Alors, un petit Ozzy Osbourne, c'est pas souvent qu'on passe ça à Souvenir FM, c'est vrai. Mais ça fait un petit peu plus d'un an qu'il est décédé. Et puis voilà, Crazy Train, il fallait bien la caser, celle-là, je voulais pas la louper. Voilà. Revenons à nos moutons. C'est vrai qu'on en parlait pas mal, on en parlait pas mal du train, hein, voilà. Mais c'est vrai que c'est peut-être la chose qui est peut-être la plus opaque pour l'utilisateur. Parce que, historiquement, un jour, à une époque, il y avait une seule entité, un interlocuteur, c'était simple, on savait à qui on parlait, etc. Et tout à coup, il s'est passé quelque chose, ça a été un peu une ouverture à la concurrence, etc. Alors en fait, qu'est-ce qui est devenu, en fait, historiquement, ce mono-interlocuteur tout à coup?
Alors ça a été divisé en trois entités qui s'appellent Voyage, donc qui font les TGV, et qui encore pour quelque temps, où on verra ce que donne l'ouverture à la concurrence sur les TER, font les TER. Après, il y a Gare et Connexion, ce qui est clair, c'est les gares, et Réseau, qui s'occupe du réseau. Voilà, c'est trois entités différentes qui ont des fois un tout petit peu de mal à se parler. Et puis après, c'est compréhensible. Hein, quand vous coupez, moi je l'ai connu chez EDF-GDF, qui a été coupé en quatre. C'est pour ça aussi que j'ai eu une grosse expérience de l'ouverture à la concurrence, parce que je connais un peu les écueils. À certains moments, je dis un peu au directeur régional, attention là, sur ce sujet-là, vous risquez. Bon, bref. Et donc, ces trois entités qui se parlent de mieux en mieux et qui ont chacun leur domaine de compétences. Et là-dessus, c'est rajouté la loi européenne qui ouvre les TER à la concurrence. Voilà. Alors attention, ouverture à la concurrence, ce n'est pas privatisation, parce que comme dans beaucoup, je vais vous donner l'exemple de Bordeaux, parce que ça les gens le connaissent, les transports de Bordeaux sont assurés par une société qui s'appelle Keolis, hein, très synthétiquement. Il y a eu, avant c'était Transdev qui le faisait, c'est-à-dire que tous les 6, 5, c'est variable, 7 ans, l'autorité organisatrice, qui à l'occurrence est la communauté urbaine de Bordeaux, demande aux entreprises d'assurer les transports. Il y a des appels d'offres, et puis les entreprises répondent aux appels d'offres. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que dans le cadre de l'exécution du contrat, la préoccupation du client, elle reste la même. Un client, il a deux préoccupations, c'est combien et quand.
Voilà.
Quand est-ce qu'arrive mon train? Quand est-ce qu'arrive mon tram? Quand est-ce qu'arrive mon bus? Mais par contre, c'est le quand. Alors, le combien, c'est nos politiques qui définissent les prix, puisqu'en général, en France, les gens ne payent en général qu'entre 15 et 25% du prix réel du service.
Oui.
Là-dessus se rajoute la tarification solidaire, parce qu'il y a des gens pour lesquels la vie est un peu compliquée, et qui peuvent ne rien payer ou payer 15-20% de ce que paye un abonné plein pot. Et par contre, là où nous, on est très vigilant, c'est sur le camp, c'est-à-dire l'information, les suppressions, enfin tout ce qui gêne dans la vie des usagers.
Alors, par contre, non, si je comprends bien, il n'y a pas de tarification dynamique comme dans les transports aériens. Pour les transports aériens, on peut payer vraiment 10 fois plus cher la même place. Hein, c'est différent là, pour ça.
Alors, dans le cas des transports en France hors TGV, où là, c'est ce qu'on appelle un service librement organisé. Là, il y a ce qu'on appelle, par le gros mot anglais, du yield management, comme vous venez de le préciser, les prix peuvent être de 1 à 10.
Oui.
Par contre, dans le transport urbain et dans les TER, et ça restera malgré l'ouverture à la concurrence, c'est les politiques qui définissent les prix. Donc, les prix restent fixes, même s'il y a des augmentations à certains moments, mais ils sont définis par les politiques. Donc ça pose pas de soucis. On n'a pas d'inquiétude à ce niveau-là, parce que les politiques sont très vigilants, parce que ce qu'il faut jamais oublier, c'est que les usagers sont aussi des électeurs.
Bah, il paraît. Non, mais c'est intéressant. Ce que vous avez dit aussi, c'est qu'on n'a pas forcément conscience de... Par exemple, je vais faire un parallèle avec le monde du spectacle. Souvent, quand on prend une place, elle est subventionnée à une quantité assez importante, parce que bon, je vous assure qu'on ne peut pas avoir un grand musicien à 20 euros la place. Normalement, ce n'est pas possible, parce que voilà, ça coûte très cher, les cachets. Et donc, cet aspect subventionné de la place de train, par exemple, ça, par contre, je crois qu'on n'en a pas vraiment conscience. C'est intéressant de le dire, ça.
Oui, je pense que c'est important, mais les gens ne le savent pas, et c'est tout à fait logique. Et puis après, ce qu'il faut voir aussi, c'est que maintenant, les entreprises remboursent la moitié de l'abonnement, oui. Et ce qu'il faut quand même voir...
C'est indu, ça, ou c'est, c'est bon vouloir, hein.
C'est dans la loi. Et
Je vais le dire au président, il va être content.
Oui, mais bon, peut-être que dans les petites entreprises comme vous, qui n'avez pas trop de moyens, bon, voilà. Ouais. Et puis, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que votre abonnement de transport en commun, il est valable, certes, quand vous travaillez, mais aussi quand vous ne travaillez pas. C'est-à-dire que le week-end, vous bénéficiez de toute façon des 50% de l'abonnement.
Oui, c'est vrai. Ouais. Bon, c'est bon à savoir. C'est vrai qu'il existe des tas d'abonnements. Ça vaut le coup un peu de creuser, d'y passer un petit peu de temps pour savoir trouver un petit peu le type d'abonnement qui pourrait correspondre à notre profil, parce que je pense qu'il y a des économies substantielles à faire, hein, si on trouve la bonne formule, non ?
Oui, mais alors c'est un peu compliqué. Bon, alors, pour les usagers qui sont digital natives, ça, c'est pas un problème. On trouve tout sur l'internet, et encore que trop d'infos tue l'info.
Oui.
Mais même pour les gens qui sont pas trop digital natives, qui savent pas trop s'en servir, je pense que si vous allez dans votre centre d'action sociale local, à la mairie, hein, en général, on va vous tenir le stylo. Et comme je le disais précédemment, vous pourrez aussi peut-être bénéficier de tarification solidaire, qui fera que vous payez vraiment votre déplacement à un prix sans concurrence, parce que les gens, quand ils prennent la voiture, ils ne voient que le coût d'usage. Ils ne voient que l'argent qu'ils mettent pour l'essence ou pour le gasoil dans le réservoir. Je peux vous assurer que quand vous prenez... Enfin, moi, j'ai la chance, à Bordeaux, on a un service qui s'appelle Cities. C'est-à-dire, c'est un service d'autopartage. Donc, en fait, on prend la voiture qui nous arrange, à l'endroit qui nous arrange et pour le temps qui nous arrange. Et donc, chaque déplacement, il est, on sait combien ça coûte.
Ouais,
et là, on se rend bien compte que c'est pas que ce qu'on met dans le réservoir, parce que surtout en plus, dans les voitures maintenant coûtent de plus en plus cher à l'achat, et coûtent de plus en plus cher à l'entretien. Donc la question du transport en commun, mais il n'y a pas des transports partout parce que particulièrement dans les zones rurales, c'est extrêmement compliqué de se déplacer. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est la voiture qui prend le dessus. Et puis dans l'imaginaire des gens, la voiture, c'est un symbole de liberté. Et c'est un symbole de réussite sociale. Et puis parce que c'est pas toujours simple de prendre les transports en commun, parce que où est-ce qu'est l'arrêt de bus, dans quel sens le bus. Qu'est-ce qui a fait le succès du tram à Bordeaux ? C'est la lisibilité du tracé, c'est-à-dire que les gens voient le tram qui passe devant tel magasin, donc ça ils savent. Tandis que le bus, il passe peut-être dans la rue qui est derrière. C'est pas grave, c'est à 50 mètres. Oui. Mais bon, et puis c'est bien de prendre les transports en commun, parce que comme ça, pour des gens qui sont feignants comme moi, ça leur permet de faire de la marche. Et je peux vous assurer que quand vous prenez les transports en commun, même quand ils marchent, vous faites généralement 3 à 4 km dans la journée.
Et voilà un bon argument, tiens, pour prendre les transports en commun aussi. Bon, après, des fois, il ne faudrait pas marcher parce que le transport n'est pas passé. Hein. Enfin bon, ça, c'est un autre sujet. On va d'abord écouter un petit peu de musique et le flash info local. Et on trouve ensuite nos invités pour la troisième partie de cette émission. Et nous voilà de retour avec nos invités Christian et Henri. Tiens, alors Henri, on n'a pas dit au début de la présentation, vous venez de quelle ville ?
Alors moi j'habite dans le Grand Axe, mais assez à la périphérie du Grand Axe. Voilà, depuis une vingtaine d'années, c'est tout à fait à la campagne.
Oui. Alors donc la problématique on en parle avec pas mal d'associations, la problématique du déplacement dans les Landes. C'est vrai qu'on a parlé tout à l'heure de la position de la voiture. Dans un milieu rural, c'est pas, il y a pas la même densité de transport en commun. Qu'est-ce que ça donne dans le coin ?
Écoutez, alors la ville de Dax, le Grand Dax exactement, a mis en place tout un vaste réseau de transport en commun, mais c'est vrai que pour aller jusqu'à l'endroit où j'habite, il n'y a plus grand-chose, il y en a quand même un peu, mais enfin, faut que je commence par faire 1,5 km à pied pour atteindre un arrêt d'un bus qui passe une fois par jour, donc c'est, ou 3 km, mais à ce moment-là, il faut que je prenne pour pouvoir me garer, mais... ça m'oblige, enfin, tant qu'au point où j'en suis, j'ai plus vite fait d'aller en voiture à Dax, d'autant qu'à Dax, c'est pas difficile de se garer. Donc, la situation comme ça. Alors, mon inquiétude, c'était de savoir si un jour je ne suis plus en état de conduire, qu'est-ce qui se passe. Et là, j'apprécie beaucoup, et je remercie le Grand Dax, d'avoir mis en place un système de transport à la demande pour les personnes de plus de 80 ans ou les personnes handicapées, qui permet 3 fois par semaine, au maximum, d'aller à Dax. Donc ça, c'est tout de même quelque chose de très positif. Mais je comprends qu'avec un service de transport en commun, un réseau de transport en commun, c'est très difficile, on ne peut pas tout desservir. Oui. Et ça coûte exorbitant, comme on l'a dit tout à l'heure. L'usager ne paie qu'une très petite partie du coût que ça revient pour la collectivité.
Alors vous disiez là, un bus, là vous êtes à EGAS, un bus une fois par jour. Alors du coup, au niveau fiabilité, c'est-à-dire parce qu'il a intérêt à passer ce bus, alors, vous allez supporter évidemment un retard de 5 ou 10 minutes si c'est un bus qui passe une fois, mais est-ce que c'est fiable justement, si vous ne vous retrouvez pas coincé parfois ?
Écoutez, ce bus, finalement, je ne l'utilise pas beaucoup, puisque, comme je vous le disais, c'est pas beaucoup plus compliqué de prendre la voiture pour aller jusqu'à Dax. Mais ça peut effectivement être utilisé par certaines personnes, si ça correspond avec ce qu'ils ont à faire à Dax, ou s'ils habitent à proximité immédiate d'un arrêt, c'est-à-dire notamment au centre du village. Moi, j'en suis assez loin, donc c'est effectivement problématique.
D'accord, voilà. D'autant plus que, bon, par les temps qui courent, on est censé essayer de prendre le moins possible la voiture, pour des tas de raisons, que ce soit pour notre portefeuille à nous, pour le portefeuille de la communauté et pour les poumons de l'ensemble. Hein, donc c'est pas forcément évident. On peut difficilement augmenter le maillage dans un territoire rural. C'est pas possible. Enfin, financièrement, c'est pas possible, j'imagine.
Je comprends que ce soit très, très difficile. Moi, j'ai toujours été un fervent usager des transports en commun là où j'ai pu le faire. Mais après, je comprends qu'à la campagne, ce soit difficile. Par contre, il y a tout de même, dans les Landes, un réseau d'autobus qui a été créé et développé progressivement par le département, maintenant par la région, avec notamment une liaison entre Dax et Bonne-Marsan. Très fréquente, il doit y avoir une dizaine d'autobus par jour qui font le trajet direct par la route express.
Là, c'est une ligne droite, là, c'est vite fait.
C'est une ligne droite.
C'est pas compliqué.
Alors, le seul problème, c'est que Bon, moi, toujours prendre à Dax, je sais où aller le prendre avec un parking relais. Mm-hmm. Le problème, c'est que ça dépose dans Mont-de-Marsan, un endroit, deux endroits, enfin, il y a deux arrêts dans Mont-de-Marsan, mais qui peuvent être plus ou moins loin. Donc là, oui, après, il faut connaître, prendre le réseau de transport en commun de Mont-de-Marsan, mm-hmm. ou autre chose. Enfin, c'est l'aspect un peu plus compliqué que ça ne dessert pas très bien les centres-villes. Mm.
Comme disait Christian, c'est aussi l'occasion de marcher.
C'est l'occasion de marcher.
Quand même, enfin, un petit peu.
Un petit peu, puis il ne faut pas être trop chargé peu. Quand même.
Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont un système hybride fait maison, c'est-à-dire, moi j'en vois beaucoup hein, dans le train, ils viennent en trottinette électrique. Bon, la trottinette électrique, ça vaut ce que ça vaut. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui viennent en train, en trottinette électrique, et après, à partir de la gare, ils vont, ils vont travailler ou ils vont faire ce qu'ils ont à faire, et ils reviennent en trottinette. Bon, ils ne vont pas faire les courses avec un caddie plein, bien sûr, hein, mais ça se fait pas mal, ça, en fait.
Oui, oui. Oui mais alors, ce qu'il y a aussi, c'est que la région met de plus en place des vélos en libre-service. Mm-hmm. Hein, c'est NAM, Nouvelle-Aquitaine Mobilité, qui met ça en place. De toute façon, ce qui est une complémentarité entre les modes. Parce que vous le verrez, hein, que ce soit les trottinettes ou que ce soit les vélos, il faudra qu'ils soient pliés dans les trains.
Bien
parce
sûr.
Que un vélo, ça prend la place de trois personnes. Mm-hmm. Et un vélo, c'est fait pour faire voyager des voyageurs et pas des tas de ferrailles. C'est péjoratif quand je dis ça, mais c'est l'idée.
Oui, oui.
Et c'est pour ça que nous, on pousse, on a d'excellentes relations avec nous et l'Aquitaine Mobilité, hein, qui met tout ça en musique. Et donc, ils mettent en place des vélos. Alors, ça peut être inclus parce que ce que fait la région aussi, ils mettent ce qu'on appelle un billet unique, hein, c'est la carte Modalis. Mm-hmm. Et petit à petit, les réseaux urbains, hein, Mont-de-Marsan l'a fait là dans le courant du mois de juillet, avec le même abonnement, vous pouvez prendre tous les transports de la région. Alors, c'est pas encore à 100%, mm-hmm. mais Poyer, Bordeaux-Yer en partie, mais ça va s'améliorer. Voilà. C'est-à-dire, nous, à la FNOT, on est pour le billet unique et la tarification solidaire dont j'ai fait état précédemment.
Oui.
Et ça, c'est bien parce que acheter 10 billets, on va dire 2 ou 3 billets pour faire un déplacement, c'est aussi un frein pour les gens.
Oui, bien sûr. C'est bien d'avoir... Il faut arriver à mixer les modes. Hein. Bon, ça, c'est important. Hein. Alors, c'est vrai que, par exemple, la gare de Saint-Vincent-Tyrosse qui a été refaite il n'y a pas longtemps, ils ont fait un système aussi où on peut... Alors, il n'est pas encore en route, mais c'est prévu pour bientôt. On peut arriver avec son vélo, le faire identifier, se garer dans quelque chose qui ferme à clé, parce que voilà, et tout ça en lien avec le billet qu'on a ou l'abonnement, et on pourra le retirer après. Il n'est pas laissé, on risque pas de se le faire piquer, entre guillemets.
Oui, ça c'est un cheval de bataille de la FNOT, on considère qu'on vient avec son vélo ou sa trottinette jusqu'à la gare de départ, mm-hmm. on prend le TER beaucoup plus librement parce qu'on n'a pas à trimballer le vélo ou la trottinette,
oui, oui.
Et à l'autre extrémité, on a un autre moyen de transport. Alors donc, par exemple, à Bordeaux, nous on le voit, il y a des gens qui ont deux vélos. Hein, il y a un deuxième vélo à l'arrivée, ou bien ils prennent des vélos en libre-service, hein, les Vécubes à Bordeaux.
Oui, oui, voilà.
Et dans les petites haltes ou les petites gares, donc, comme vous l'avez précisé, des stationnements sécurisés pour le vélo de départ, mm-hmm. et à l'arrivée, utiliser par exemple les vélos mis en place dans le cadre de Modalis par NAM.
Voilà, ça c'est pas mal. Alors, je voudrais qu'on parle un petit peu, on parle beaucoup de trains, c'est vrai que c'est souvent ce qui cristallise un peu le mécontentement de beaucoup de gens.
Parce que c'est les plus gros volumes.
Oui, c'est ça. Alors, on peut parler aussi un petit peu de l'avion. Alors, cet été, je crois que c'était cet été, ou il y a quelques temps, rappelez-vous, augmentation du prix d'essence, et certaines compagnies ont voulu nous mettre une taxe a posteriori, changer de manière dynamique, une fois qu'on a payé le billet, son prix, en fonction du coût du carburant. Ça, c'est pas passé, parce que ça, c'est pas possible, ça.
Ouais, c'est très difficilement passé parce que, en fait, moi j'en ai discuté, hein, je ne vous cacherai pas, avec le directeur de Total à Nouvelle-Aquitaine. Il me dit, ouf, tu sais, ils ont des contrats à longue distance, sur une longue durée, donc bon, ils sont quand même protégés des augmentations. On le voit bien, parce que si Total peut bloquer l'essence à 1,99€, c'est bien parce que entre le moment où ça sort du puits et le moment où ça arrive dans votre réservoir, il se passe quand même un certain nombre de mois. Mais enfin, bon, il faut être vigilant quand même.
Et oui, c'est vrai, parce que ça a une incidence sur le pouvoir d'achat. C'est vrai que les gens râlent en général, disent qu'ils trouvent que l'essence monte très vite, de manière étonnante. Cet effet tampon temporel, on a du mal à le percevoir en tant que consommateur. C'est une vision d'esprit ou on est des trop râleurs en fait?
Alors, ce qui augmente beaucoup, c'est le gasoil, parce que le gasoil en France, on est en déficit sur le gasoil, alors qu'il y a quelques années, nos constructeurs nationaux, Peugeot, qui a toujours été un fervent utilisateur des moteurs gasoil depuis les années 60, a poussé au gasoil, et maintenant, on est en déficit sur le gasoil, donc c'est pour ça que le gasoil augmente, et que globalement, l'essence... Et puis, ce qu'il faut voir aussi pour les gens, il faut peut-être se poser la question du GPL ou de l'E85 qui est moins cher, même si ça fait une petite modif technique à faire. Alors, il est évident que on a aussi quand même par le passé subventionné l'énergie, on l'a vu à certains moments, mais nous on considère, bien sûr, c'est normal, c'est notre cœur de métier, qu'il faut privilégier les transports en commun. C'est ce qui est le plus économique et le plus écologique.
Oui, et puis c'est assez confortable. Je crois que l'usage du train, quand même... Les gens aiment le train. C'est un mode de transport. Je crois que les gens préfèrent à que ce soit le bus, etc. Je crois que les gens, ils aiment vraiment le train.
Il y a deux remarques. C'est que d'abord, depuis que le conseil régional a repris les TER au début des années 2000, ils ont renouvelé la flotte, puisque maintenant, vous avez affaire à des AGC, à des Régiolis ou des régios de Zen. Et puis l'avantage que vous avez quand vous êtes dans les trains, ben, c'est que vous êtes libre, vous pouvez regarder votre ordinateur, vous pouvez lire, vous pouvez dormir. Vous êtes en voiture, vous pouvez pas.
Oui, on peut se dérouiller les jambes un petit peu, on a de l'espace par rapport à un vol en avion, long courrier en écho, c'est moins marrant pour les genoux et pour les coudes.
Voilà, et puis tout en étant dans le train, vous pouvez continuer à écouter votre radio préférée.
Et voilà, voilà un argument qui est imparable, imparable. Allez, on va faire une dernière pause et on retrouve nos invités ensuite pour la dernière partie de cette émission. Ah, c'était le train de Monsieur Lavoine. Ben justement, on va finir un petit peu avec Henri sur le train, parce que on a dit que c'est vrai que c'est le mode de transport que les gens préfèrent, c'est le plus confortable, voilà. Mais il y a des problèmes aussi. Il faut qu'on en parle aussi. Il n'y a pas de raison.
Oui, ben les problèmes que je ressens moi, habitant d'Dax, donc les environs de Dax, c'est que premier problème, c'est que pour aller à Bordeaux, alors il y a effectivement à peu près un train toutes les heures, mais certains sont des TER et certains sont des TGV.
Oui.
Alors pour le TER, le billet, on peut prendre un billet qui permet d'utiliser n'importe quel TER dans la journée.
C'est vrai, oui.
Mais c'est pas le cas pour les TGV. Et si on rate un TER, on peut pas prendre un TGV à la place.
Et oui.
Donc ça, c'est tout de même problématique et limitatif quand on a des déplacements dont on ne sait pas très bien combien de temps vont durer. Alors, deuxième problème, c'est également que la fiabilité des TER, quand il y en a un train qui est supprimé, et on le sait parfois qu'à la dernière minute...
Oui, sans motif évoqué en plus, juste supprimé,
motif,
il est marqué des fois.
Sans motif, disant pour des problèmes de je ne sais pas quoi, ils peuvent dire ce qu'ils veulent.
Oui.
Et ça peut poser des problèmes, soit parce qu'on a des choses importantes à faire au bout.
Oui, on peut les travailler aussi. Voilà.
Soit parce qu'il y a des correspondances pour au bout. J'ai plusieurs anecdotes là-dedans que je pourrais citer.
Il y en a, oui.
Où finalement, ça pose de gros problèmes, même si c'est une demi-heure de retard, par exemple, ou la suppression au dernier moment d'un TER ou d'un train, ça, c'est tout de même de gros problèmes pour les usagers. Pour lesquels, après, il y a des correspondances modifiées, surtout que ce n'est pas les mêmes billets.
Oui,
aller à Paris, il fallait trois billets différents, un de TER, plus un de TGV, plus un de Ouigo.
Et oui, c'est ça, ce n'est pas les mêmes entités, c'est ça qui est perturbant.
Avec trois billets différents, alors que ce serait beaucoup mieux s'il n'y avait qu'un seul billet, ça permettrait d'assurer et de justifier les correspondances en cas de retard.
Surtout qu'en cas de problème, il faut se retourner vers la personne, dire « Ah mince, on va voir au guichet. Ah mais non, c'est pas nous monsieur, c'est... Voilà, à un moment donné, ça devient compliqué, quoi, parce que là vraiment, c'est vrai que c'est un problème. C'est un problème. Le bus, en tout cas, en ville, quand il y a la ligne numéro 12 qui passe à 8h53, eh ben, vous y allez, le bus y passe. Le train est moins fiable quand même, il y a des fois des surprises notamment. Alors du coup, on a besoin d'un interlocuteur, on a bien vu que vu l'extérieur, ça ressemble à un sac de nœuds tout ça. Donc la FNOT, elle peut servir à ça, d'interlocuteur et de défense du droit et discussion pour le consommateur.
Oui, et puis nous on regrette entre autres que sur le Grand Axe avant... Henri me le faisait remarquer, il y avait eu au minimum une fois par an une réunion de concertation avec les usagers. Ben, ce serait peut-être bien là que le Grand Dax le remette en place, parce que de toute façon, légalement, il y a un comité des partenaires qui existe et qui devrait être remis en place au plus vite.
Oui, d'accord. Donc un peu plus de... Ben, vous le disiez, hein, vous parliez tout à l'heure de humain versus visio, hein.
Absolument.
C'est quand même mieux d'avoir des gens en face. Hein.
Absolument. On voit bien que de toute façon, Henri serait, je pense, volontaire, prêtre au comité des usagers. Oui. Et moi, ça ne me poserait pas de soucis, puisqu'en une heure, même depuis Bordeaux, je peux venir à une réunion à Dax.
Oui. D'ailleurs, tiens, vous êtes venu en train.
Oui.
Voilà.
Vous allez oui, 9h...
Combien de temps alors, donc, du coup?
Ben, 9h20, 10h30 et 31, ouais. Voilà. Et
c'est
puis,
royal, hein.
Et puis, oui, ben, bien sûr. Et puis, j'ai amené mon ordinateur, j'ai pu lire la presse et tout, il n'y a aucun souci.
Voilà, très bien. Eh bien, merci messieurs. Merci d'être venus
nous parler. Merci à vous de nous avoir donné la parole.
Oui, ben, c'est important, cette histoire de pouvoir se déplacer, hein, la mobilité dans les... Plus le terrain est rural, plus c'est compliqué. Hein. Bon, c'est normal, c'est étendu, la densité est moins grande. Donc les transports en commun aussi sont un peu plus dilués. Ce n'est pas évident de trouver exactement le trajet qui nous convient. Et heureusement qu'il y a des gens qui sont là pour veiller au grain, un petit peu que ce soit nos besoins, nous, en tant qu'usagers final, qui soient défendus auprès des instances auxquelles on ne comprend rien parfois. Merci beaucoup, messieurs. Puis ben, bon retour, hein, que ce soit à pied, à cheval ou en fusée. Bon retour.
Merci.